Alors, je vous disais en commençant, j'ai effleuré très brièvement, je pense, dimanche passé, le fait que quand nous sortions de la présence de Dieu, nous sortions de cet état de demeurer en Christ, hein, dont parle Jésus en Jean 15, c'était souvent lié à nos expériences quotidiennes, nos expériences personnelles, les difficultés de la vie, les souffrances diverses que nous pouvons rencontrer sur cette terre. Je me suis donc dit que c'était peut-être intéressant d'essayer de réfléchir quelque peu ce matin à comment je peux vivre les choses difficiles différemment. Que naturellement, que ce que ma nature personnelle, ma nature humaine me tente à faire, à savoir déprimer, s'effondrer, etc. Alors pour commencer, j'aimerais donner cette citation d'André Comte-Sponville, ce sera plus moi, ce sera André Comte-Sponville, un philosophe athée, mais que j'aime pourtant beaucoup. Hein. Oui, j'aime des athées, ça peut arriver. Voilà ce qu'il dit du malheur. Le malheur, c'est quand toute joie paraît impossible, quand il n'y a plus que l'horreur ou l'angoisse, que la douleur et le chagrin, que le dégoût, quand on préférait être mort, quand vivre n'est plus que survivre et endurer, que souffrir et pleurer. Il est athée, hein? Ça n'aide pas. Hein? Parce que par définition, s'il n'y a pas Dieu, l'espérance, elle va se réduire comme peau de chagrin. En fait, c'est la première réflexion qui m'est venue en réfléchissant à ça. Je pense que notre problème premier à chacun d'entre nous, c'est que nous sommes allergiques au malheur. On n'aime pas ça. Vous me direz, s'il vaut mieux, on serait maso, hein, quelque part, mais. Et surtout à l'époque actuelle, dans nos sociétés de loisirs, où quelque part la vie devrait être, même si on ne le dit pas, dans un coin de notre tête, on se dit que notre vie ici-bas, puisque c'est la seule qu'on ait, hein, soi-disant, pour beaucoup, en tout cas, ne devrait être qu'une sorte de fête sans fin. On devrait prendre son pied tout le temps, en permanence. Est-ce que ça correspond vraiment à l'expérience humaine? Ben, la réponse est non. Donc, on a une problématique par rapport à ça. On a une inspiration profonde intérieure à être heureux tout le temps, alors que la réalité de nos vies nous manifeste au quotidien que ce n'est pas le cas. Et que ce sera, tant qu'on sera ici-bas, ça ne sera jamais le cas. Vous levez le matin, vous êtes super en forme, super joyeux pour différentes. Parce que vous allez, je sais pas, moi, voir un ami, aller manger un bon bout au restaurant. Vous êtes heureux et puis vous avez une rage de dents qui commence. Votre journée est pliée. Nous sommes donc allergiques au malheur, aux circonstances difficiles. Pourtant, nous n'en sommes pas toujours conscients, et c'est bien ça le problème. Alors, dans un bouquin que j'ai lu il y a quelques années, il y a un psychologue, le docteur Jonathan Haidt, qui a fort, fort travaillé sur le rapport justement à la toute-puissance et à l'égocentrisme. Il a proposé, dans un échantillonnage, pardon, de parents, type, hein, je crois qu'il y avait une vingtaine de couples, il leur a proposé un script. Il leur a donné une feuille avec différentes questions, en disant, voilà, ça, c'est des questions relatives à vos enfants. Pour des parents, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important normalement. Après Dieu, hein, bien sûr. Bien sûr. Ce psychologue a donné à ses parents la possibilité d'interférer, de changer l'avenir de leurs enfants. En imaginaire, bien sûr. Il leur a dit, imaginez que vous teniez entre vos mains le script de la vie de votre enfant. Toute sa vie est là, on vous donne de surcroît un effaceur de 5 minutes pour éradiquer ce que vous voulez de la vie de votre enfant. Vous pouvez supprimer ce que vous voulez. Autrement dit, on va le dire autrement, vous avez les pouvoirs de Dieu pendant 5 minutes. Vous apprenez par exemple qu'il aura des difficultés d'apprentissage à l'école dues à une grave dyslexie. Est-ce que vous effacez cette difficulté de sa vie ou pas? Parce que ça va prendre des heures et des heures à lui apprendre à lire et à écrire, bien entendu. En secondaire, il aura une grande bande de copains autour de lui, mais son meilleur ami mourra d'un cancer. Vous effacez ou pas? C'est pas fini, hein? Une fois à l'université, il aura un accident de voiture et va y perdre une jambe. Oui, je sais que ça fait beaucoup, hein, mais c'était le but du test, hein. Vous effacez cet accident de sa vie ou pas? La perte de ce membre le plongera dans une profonde dépression nerveuse. Vous effacez ou pas? Plus tard, enfin, il va décrocher un boulot, le boulot de ses rêves, mais qu'il finira par perdre à cause d'une crise financière. Il se mariera aussi, mais malheureusement finira par divorcer, et cela lui causera une peine immense. Vous effacez ou pas? Ce que prouve, ce que manifeste ce test, ce n'était pas le but du psychologue, hein, mais c'est ce que je me suis dit, c'est que ce n'est pas facile d'être Dieu, hein, objectivement. Donc, pour la plupart d'entre nous, ces enfants. Donc la question que pose ce test est la suivante. Est-ce qu'on ne serait pas capable, non, est-ce qu'on ne voudrait pas supprimer tout ce qui pourrait occasionner de la souffrance à notre enfant? Alors, la plupart des parents disent, bien sûr, ben, c'est peut-être là le problème. Hein. De nombreux parents de nos jours, alors cette expression, je l'ai inventée, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein. Moi, j'observe, hein, je suis un observateur social un petit peu quand même. De nombreux parents de nos jours peuvent être comparés à des hélicoptères qui passent leur temps à tomber en piqué dans la vie de leurs enfants pour s'assurer que personne ne les maltraitera et qu'ils ne connaîtront que des succès dans leur scolarité, leur sport s'ils en ont un, leurs relations, etc., etc. Si vous aviez ce fameux effaceur et que vous puissiez effacer toute trace de souffrance, tout sentiment d'échec et de déception, pensez-vous néanmoins que ce serait une bonne idée pour l'enfant, pour votre enfant? En fait, est-ce que cela n'empêcherait pas vos enfants de grandir dans tous les sens du terme? Serait-il en fait possible que l'homme ait besoin d'adversité, peut-être parfois même de ce que l'on pourrait appeler un traumatisme pour atteindre son plein potentiel de développement et de croissance? À partir du moment où les tuiles font partie de la vie, il faudrait peut-être qu'on commence à se dire qu'il faut peut-être apprendre à en faire quelque chose. Hein. L'apôtre Paul, vous direz c'est Paul, mais enfin, c'est quand même emblématique, l'apôtre Paul en tout cas pensait que vécu dans la présence de Dieu, dans la vie de l'esprit, la souffrance pouvait mener à une forme de croissance. On va prendre un premier texte. Bien plus, dit-il, nous sommes fiers, même de nos détresses. C'est Paul, hein? Sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il n'y a pas que lui qui dit ça. De mémoire, l'attaque, le deuxième verset de la lettre de Jacques qu'on a dans le Nouveau Testament, je pense qu'il exprime de manière encore plus choquante pour nous, souvent. Jacques dit, frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie parfaite toutes les épreuves que vous pouvez endurer, sachant que l'épreuve produit la patience, et la patience produit la persévérance, et la persévérance mène à la perfection. En fait, ce que Paul semble suggérer ici, en tout cas, c'est un des éléments. Il y a, pour faire simple, je pense qu'à la réflexion, il y a trois possibilités d'attitude face à l'épreuve, à la souffrance, à la catastrophe, voilà. Il y a l'espoir ou l'espérance, il y a la désespérance ou le désespoir et la résignation. Ce sont trois réponses types aux mauvaises nouvelles, aux mauvaises périodes, aux moments difficiles. Alors l'espoir, qu'est-ce que c'est l'espérance? Eh bien, c'est croire, bon, c'est la définition que j'en donne pour être le plus simple possible, c'est croire, il faut de la foi, hein, c'est croire que mon futur possède de bonnes perspectives, indépendamment de ce que je suis en train de vivre. En tant que chrétien, c'est d'une évidence. Hein. Rappelez-vous un passage que j'ai cité la semaine passée, que je tirais de Romains 8, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8. Hein, rappelez-vous, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis la fin du chapitre, rappelez, j'ai la conviction que ni les puissances, et il énumère tout ce qu'on peut rencontrer, rien ne nous séparera jamais de l'amour du Christ. Et puis il surenchérit dans le passage en disant que nous serons un jour avec lui. Et par rapport à ça, le reste qu'on peut vivre ici, c'est des cacahuètes. Hein, ça n'a pas vraiment de poids, même si c'est une réalité ce qu'on vit. Hein, ce n'est pas pour ça que c'est agréable. Hein. Donc, quand je suis dans l'espérance, je désire véritablement ce que je pense que mon futur me réserve, et je crois, en termes de foi, que ce futur est en train de faire son chemin, même à travers mes circonstances difficiles. Ça fait partie du chemin qui me mène à cet objectif. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, l'espérance n'a pas vraiment bonne presse. Hein. Les gens qui espèrent sont considérés souvent de nos jours un peu comme une sorte de naïf. Ce n'est pas vraiment la mode. Alors, petite précision quand même, pour ne pas être mal compris. L'espoir implique l'attente, ce qui peut s'accompagner d'incertitudes, de périodes de doute. Hein. Ça n'exclut même pas parfois ces périodes, si elles sont relativement longues, d'inclure une certaine forme de peur de ce qui va arriver. Mais j'accueille quand même demain. Je fais bon accueil. D'ailleurs, à la réflexion, vous pouvez toujours repérer qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui est dans l'espérance, quand c'est quelque chose qui est marqué en lui, ces gens ont une bonne odeur en fait. Ils boostent notre réalité. Je ne parle pas de ceux, c'est vain, pas ceux qui surjouent, pas ceux-là. Ça, c'est du théâtre, hein, ce n'est pas de l'espérance. Et je ne citerai pas de nom. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne quand on lit la Bible, c'est que, quelles que soient les circonstances, et la Bible raconte quand même des choses qui ne sont pas toujours faciles à avaler, c'est qu'en filigrane, on nous réaffirme page après page que Dieu est un pourvoyeur d'espérance. Que Dieu est un Dieu d'espérance. D'ailleurs, s'il n'était pas un Dieu d'espérance, on pourrait arrêter tout de suite. Hein. J'espère, c'est le cas de le dire quand même, que vous espérez encore quelque chose. À l'opposé de l'espérance, il y a la désespérance. Le désespoir s'insinue en moi si je désire désespérément quelque chose, mais que je crois que ça n'arrivera jamais. Si vous espérez quelque chose, mais qu'en fort intérieur vous dites « ça n'arrivera jamais », ben vous allez désespérer. Donc dans le désespoir, mon attente est encore très forte, mais j'ai néanmoins la certitude que je ne réaliserai pas ce que je désire. Autrement dit, la pensée du futur devient douloureuse pour moi. Elle devient douloureuse. Là où elle était paisible dans l'espérance. Je ne sortirai jamais de cette maladie, je ne sortirai jamais de cette dépression. Personne ne va jamais m'aimer, ça ne s'arrangera jamais à mon travail, etc. Enfin, vous multipliez les exemples, hein, c'est à l'infini, quasi. Le désespoir paralyse, et c'est bien ça le problème. Et une âme, l'âme de n'importe qui, ne peut pas survivre très longtemps s'il est habité par une profonde désespérance. Parce que le désespoir est toxique, en fait. Et c'est pour cette raison que les gens s'en arrangent parfois. Ils sont obligés de faire avec. Et c'est là que la désespérance se transforme en résignation. Donc la résignation, si vous voulez, c'est une sorte d'état intermédiaire entre l'espoir, entre l'espérance et le désespoir. Donc quand je suis dans la résignation, je minimise mon désir et je tente de me convaincre que ce que j'attends en fait de l'avenir n'est pas vraiment si important que ça. Ce boulot, bref, n'est pas si génial que ça après tout ce que je désirais au niveau travail. Bon, c'est pas grave. Cette promotion, bon, c'est pas grave si je l'ai pas. Cette femme ou cet homme, finalement, n'est pas si terrible que ça. Je pensais qu'elle était plus belle ou plus beau que ça. Puis il y en a d'autres sur la planète, c'est pas lui ou c'est pas elle, c'est pour être quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas si grave que ça. Si Jésus revient pas, je serai avec. Alors bien sûr, quand il s'agit du vieillissement, vous avez remarqué qu'on vieillit tous, hein, surtout vous, de payer ses impôts et d'être supporter d'Anderlecht en 2019, apprendre à se résigner et à accepter l'inévitable avec sérénité peut être considéré comme une preuve de grande sagesse, hein, croyez-moi. Mais la résignation à elle seule ne peut pas soutenir toute une vie. Si c'est ça le fondement de notre vie, on va être malheureux, mes amis. Nous allons être malheureux. Donc la nouvelle version de vous, créée en Christ, inclut l'espérance dans le package. Quand vous êtes devenu chrétien, il vous a mis un module espérance. Alors il faut l'activer, hein. C'est comme mon micro. Si je n'active pas, je me fais engueuler par Dominique ou par Nicolas ou les deux, parce que je n'ai pas appuyé sur le petit bouton. Si je n'active pas, ça ne passe rien. Mais j'ai le module, il est là, regardez. Et là, j'ai mon audit, l'espérance derrière. L'Esprit de Dieu ne nous conduit jamais, je dis bien jamais, sur le chemin du désespoir, parce qu'il a toujours de l'espoir, puisque Dieu est là. Et cet espoir ne repose pas sur les circonstances, mais bien plutôt donc sur une disposition intérieure qui est manifeste par la présence du Saint-Esprit en nous. Maintenant, je vais vous poser deux questions. Et je vais vous donner 3 secondes chrono pour vous positionner par rapport à cette question. Ne me dites pas à voix haute, je ne veux pas le savoir. Je sais déjà. Première question, ben c'est idiot. Hein. Quand les choses vont mal, j'ai tendance à m'attendre au meilleur. C'est une tuile. Sois béni, Seigneur. Voilà. Hein. Interrupteur. Deuxième question. Positionnez-vous. Hein. Si quelque chose peut mal tourner, pour moi, c'est ce qui va se passer. Quoi. Du style, il y a une tuile qui tombe sur cette planète d'un toit, c'est sur ma tête qu'elle va tomber, cette tuile. Ça, c'est garanti. Si vous répondez à ces questions, dans quel camp vous vous situez, plus ou moins ? J'aime bien qu'il y ait un côté caricatural dans les questions, hein, c'est fait pour. Donc, si vous avez répondu oui à la première question, et non la seconde, vous allez adorer ce que je vais dire maintenant, vraiment. Parce que ça va vous parler, parce que c'est ce que vous vivez. Si vous avez répondu d'une autre manière que celle-là, vous aurez besoin de ce que je vais dire maintenant, pour que ça change dans vos vies, du moins j'espère. Je disais encore, au moment de prière tout à l'heure, que j'ai eu l'occasion de visionner une série de questions posées à un pasteur américain d'un certain âge, et assez connu, qui a écrit beaucoup de livres, qui a bien évolué, parce que je n'aimais pas du tout ce qu'il racontait d'habitude, mais il a l'air bien maintenant, le garçon, comme quoi il ne faut jamais désespérer. Il a une soixantaine d'années, on lui a dit « Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans le ministère pastoral ?» Et il a souri, il a dit « C'est de prêcher tous les dimanches, et il a laissé un blanc, aux mêmes personnes, en espérant que quelque chose change. » C'est là que j'ai atteint ma TV et que j'ai commencé à pleurer violemment. Et que j'ai été saisi d'un profond désespoir. Voilà. Vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, je le vis aussi. Hein. La bonne nouvelle avec l'espérance, c'est quelque chose, même si on n'est pas câblé pour ça, parce que les parents, enfin soit, l'éducation et autres, si on n'est pas câblé pour ça, on peut apprendre. Autrement, ce serait vraiment dramatique, mais on peut apprendre. Dans ce qu'on pourrait appeler la vie normale, nous voguons par une série de présupposés qui peuvent fonctionner pendant un très long moment, du style « je me sens en sécurité parce que j'ai une certaine réserve d'argent devant moi, donc si je ne l'ai plus, je désespère. J'ai une identité sociale parce que j'exerce un certain travail qui me donne un certain aura, un certain compte en banque, un certain niveau de vie, et tout ça, ça me sécurise. Alors une famille ou des enfants, ah, il a réussi, il a une famille et des enfants. » Oui, oui, il y a surtout des emmerdements, mais enfin, soit. Ah, il a réussi. Pour certains, c'est ça. J'ai une famille, des enfants, youpi ! J'ai un bon boulot, ouais ! J'ai aucune raison d'espérer. Jusqu'à vous perdez un gosse, votre deuxième enfant chope un cancer, votre femme meurt dans un accident de voiture, et il reste quoi de tout ça ? Tout ça, ce sont des formes de sécurisation qu'on a installées, parfois sans même s'en rendre compte. Donc j'ai un but parce que je vais accomplir et accumuler plus de choses que j'en ai actuellement. C'est aussi un but de beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est ça qui les sécurise. Seulement si on part du principe, et c'est une réalité, qu'on ne maîtrise strictement rien, votre boulot de rêve, vous pouvez le perdre demain. Demandez à tous ceux qui travaillaient chez Goldman Sachs en 2008, avant la crise financière. Ils se faisaient, excusez-moi l'expression, des couilles en or. Hein. Et puis vous vous rappelez, après la crise du lendemain, tous les petits cartons avec des agrafeuses, tous ces gens, des milliers de gens dans la rue, hein. Viré du jour au lendemain. Fini le boulot de rêve. Donc, ces sécurisations fonctionnent jusqu'au moment où quoi ? Ben, où une crise apparaît. Où il y a un truc qu'on n'a pas attendu qui déboule. Ça peut être émotionnel, cette crise. Hein ? Ça peut être relationnel, ça peut être économique, mais c'est une crise. Ou alors, vous allez chez le médecin, il vous dit, vous avez une tumeur maligne. Il faudrait quand même penser à opérer parce que c'est mortel ce que vous avez. Ou alors un scandale qui détruit l'image que tout le monde avait de vous. Ça, je connais. Le lendemain de ma chute, on le savait aux États-Unis. Ça m'a fait rire, ça, c'est pas, j'aurais pas dû. Hein. Même aux États-Unis, on s'est dit, froid, le lendemain. Incroyable. Hein. Heureusement que mon image a été en Dieu. Hein. Et pas en ce que les gens faisaient. Ou alors vos enfants ou un de vos enfants qui fait partie de votre sécurisation optimale, décide ou prend des décisions qui vont totalement à l'encontre de tout ce que vous leur avez jamais enseigné. Et vous le prenez comme une sorte de déni de ce que vous êtes et de ce que vous avez toujours essayé de faire. Je suis pasteur, ma fille, qui est toujours pas chrétienne, mais c'est pas grave, elle chemine. Demain, je me suis converti à l'islam. Voilà. Béni sois-tu ! Enfin non. Ben ouais, mais ça arrive dans la vraie vie, hein. J'en ai un pour l'instant. Il a du mal à s'en remettre, lui, hein, mais bon, soit. Donc toutes ces crises, quelles qu'elles soient, éveillent en nous la même question. Sur quoi puis-je construire ma vie afin que les circonstances que je ne maîtrise pas ne puissent pas me la détruire ou me la voler ? Autrement dit, qu'est-ce qui a vraiment de l'importance ? Sur quoi je peux vraiment bâtir pour que ça reste inébranlable ? Par exemple, vous savez que j'aime la littérature, j'aime les livres. C'est incroyable le nombre de choses magnifiques que de grands écrivains ont écrit sur les souffrances, sur les difficultés de la vie. C'est invraisemblable. Il y a, la plupart des plus belles lignes de la littérature française, anglaise ou américaine ont été écrites en rapport avec ces passages de vie terribles. Ernest Hemingway, vous connaissez ? Voilà ce qu'il a dit. Et je ne cite que lui, il y en a d'autres. Hein. « Tôt ou tard, ce monde finit par vous briser. » Ouais ! qui que vous soyez, mais les êtres brisés s'avèrent être en fait les âmes les plus fortes évoluant dans ce monde blessé. C'est magnifique, hein, ça. Hein? Vous savez comment il est mort, Hemingway? Et il s'incluait dans les âmes brisées. Hein? Vous savez de quoi il est mort? Il s'est suicidé. C'est intéressant. Hein? On peut dire des choses magnifiques, hein, sur les épreuves et ne pas en sortir. Hein? Alors ça nous dit une chose, je pense. Hein? C'est que ça, c'est ce qu'il écrivait, c'est ce qu'il espérait, trois petits points, pourtant avoir écrit tant de choses magnifiques sur la capacité qu'a l'homme de traverser les difficultés, il a donc fini par mettre fin à ses jours. Ce qui signifie que le simple fait de savoir certaines choses ne va souvent pas suffire à ce que cette connaissance nous transforme et nous permette de continuer à avancer. Savoir, ça ne suffit pas. À ce tarif-là, moi, je serais Bouddha, quoi. Tout ce que je sais déjà, mais ça change parfois. Et je m'en veux souvent, hein, je ne sais pas vous, mais parce que plus on en sait, plus on se rend compte qu'on ne sait rien, en fait. Mais c'est vrai. Hein. Pourquoi? Parce que si ça n'est qu'un savoir théorique, ça n'impacte pas la vie. Hein. Il vaut mieux savoir un truc et le vivre que 1000 trucs et ne pas le vivre. En fait, il y a quelque chose de particulier qui nous arrive quand les choses vont mal. Pendant très longtemps, des chercheurs ont tenté d'analyser ce qui faisait que certaines personnes étaient capables de supporter la souffrance, quelle que soit la nature de cette souffrance. Ils ont fait des recherches, parce qu'il y en a d'autres qui sont incapables de vivre ça comme ça. Durant la dernière décennie, les recherches sont passées du « comment un être peut supporter l'adversité » à « comment il peut en sortir plus fort ». Parce que les gens qui passent à travers, ils sont plus forts en sortant qu'en entrant. Il y a ceux qui ne rentrent pas et qui sont écrabouillés par les circonstances, on n'en parle même pas de sortie, ils n'en sortent pas. Mais ceux qui en sortent, non seulement ils en sortent, mais ils sont plus forts qu'avant, positivement parlant, hein, j'entends. C'est intéressant ça quand même. Donc tout comme il existe un syndrome de stress post-traumatique, qui touche en particulier les soldats revenus du front, vous savez, ou des étudiants soumis à un stress trop important, les chercheurs ont mis en exergue, suite à leurs recherches, qu'il existe également, et ils l'ont appelé comme ça, un syndrome de croissance post-traumatique. Il y a des gens qui croissent, qui grandissent après la souffrance. Donc, il a amené certains de ces chercheurs à déclarer que le plus haut niveau de réalisation personnelle ne peut pas être atteint en dehors de l'adversité, puisque ça fait grandir certains. Je n'ai pas dit qu'il faut même souhaiter qu'il y ait des tuiles qui tombent, hein, mais quelque part, puisqu'ils acquièrent une plus grande stature émotionnelle, psychologique et autre, ça peut être intéressant, justement, qu'on continue, donc que les tuiles arrivent, il ne faut pas les chercher, mais si elles arrivent, il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc, il semblerait qu'aujourd'hui, en tout cas dans certains milieux scientifiques, on admette que pour grandir, il faut que quelque chose de négatif survienne. Pourtant, je l'ai dit, l'adversité n'amène pas automatiquement la croissance. Elle peut miner les gens et le résultat final va justement dépendre de la façon dont nous allons faire face à cette adversité. Il y a en fait trois cas de figure dans lesquels la croissance post-traumatique peut se produire. On peut grandir. Il y a trois cas de figure. Le premier, être confronté à un défi peut nous révéler des capacités cachées en nous dont nous n'aurions jamais pris conscience si ce quelque chose n'était pas arrivé. Il y a quelqu'un qui a dit la différence entre le lâche et le héros, c'est une seconde chrono. Le héros, il a peur après le danger, le lâche avant. Vous connaissez le dicton, je pense, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Tant que ça ne vous est pas tombé sur la cafetière, vous ne savez pas comment vous allez réagir. C'est donc dans l'adversité, souvent, que nous voyons de quoi nous sommes véritablement faits. Un peu comme si vous appuyez sur un tube de dentifrice. Si vous n'appuyez pas, il n'y a rien qui sort. Hein. Oh, c'est pour ça, c'est... Hein? Ce que je n'aurais pas inventé. Hein, c'est... Non, vous n'allez plus jamais regarder votre tube de dentifrice de la même façon. Hein. J'ai souvent, à titre personnel, entendu des personnes me dire « Je n'aurais jamais pu vivre ce que un tel a vécu, je serais mort. » Et puis, il arrive que cette personne vive exactement ce dont elle avait peur. Et son cœur continue à battre. Et le soleil se lève le matin. Et le monde continue de tourner. Il n'y a rien qui s'arrête en fait. Hein. Nous ne savons pas de quoi nous sommes capables tant que nous n'y faisons pas face. Alors, il n'y a pas que la Bible qui dit ce genre de choses. On va retrouver cette dimension dans bien d'autres écrits de différentes origines. Alors j'en ai pris un du célèbre sage chinois Mengzi. Mengzi. Voilà ce qu'il a dit. C'est on pourrait dire une sorte de philosophe du troisième siècle avant notre ère. Il a l'air enjoué et joyeux, lui. Mais c'est l'art pictural japonais de l'époque. Lorsque le ciel s'apprête à confier une responsabilité à quelqu'un, il exerce son esprit par la souffrance. Place des obstacles sur le chemin afin de stimuler son esprit, fortifier sa nature et l'améliorer dans ses domaines de compétences. Mais nulle part, ce genre d'affirmation ne se retrouve avec autant d'évidence, de force et de permanence que dans la Bible. Dieu aurait pu repenser à ces petits exemples que je vais vous donner, bibliques. Dieu aurait pu laisser Abraham confortablement installé en Mésopotamie. Imaginez, papa, maman, oui Abraham, je vais partir avec tous mes troupeaux, toute ma famille, ma femme et tout le reste. Oh, ce serait le bonhomme, mon marteau et tout, pour taper sur les clous. Et je m'en vais parce que Dieu m'a parlé et je veux suivre ce Dieu. C'est un Dieu à nous, Mésopotamien. Ah non, c'est un Dieu que... Ah, il s'appelle comment? Je ne sais pas, il ne m'a pas donné son nom. Mais je m'en vais, papa, maman, et vous ne me reverrez jamais parce que je vais à 3000 bornes minimum et il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de GSM, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a rien. Au revoir, famille bien-aimée. Voilà. Ciao. Mais Dieu aurait pu le laisser là pour qu'il continue confortablement sa vie. Enfin, pas faire sa vie, tu laisses, tu prends tes temps, tout ton brôle et tu dégages. Voilà. Youpi. Il aurait pu laisser Moïse à l'aise en tant que prince d'Égypte, boire du vin, se constituer un harem personnel, être adoré par les Égyptiens. Eh bien non. Il aurait pu laisser Aaron, le frère de Moïse, peinard, en plein milieu du peuple, caché dans le peuple. Eh bien non, tu sors du peuple et tu vas être le premier grand prêtre de l'histoire d'Israël, avec toutes les responsabilités que ça implique. Il aurait pu aussi éviter que David rencontre Goliath. Mais David ne serait jamais devenu David s'il n'avait pas rencontré Goliath. Il aurait pu permettre que Sadrach, Meshach et Abednego, rappelez, j'espère quand même que vous vous souvenez de ces noms magnifiques, il aurait pu s'arranger, Dieu, pour que ces trois gars ne se retrouvent pas face à une fournaise ardente auprès d'être jetés dedans. Il aurait pu s'arranger aussi pour que Daniel ne se transforme pas en dompteur de lions. Eh bien non. Il aurait pu empêcher que Jézabel fasse partie de la vie d'Élie. Que Néhémie soit captif à Suse, qui reste là, à servir le vin du roi, et que Jonas ne croise jamais une baleine. Il aurait pu s'arranger. Il aurait aussi pu empêcher que Esther... C'est un test de connaissance biblique, l'air de rien, en passant. Et je vois les points d'interrogation au-dessus de votre tête. Je vois. Par ma femme qui sait tout même. C'est bien, ma chérie, tu sais. Il aurait pu donc empêcher qu'Esther connaisse l'angoisse de devoir prendre une décision tragique pour elle et pour son peuple. Et il aurait pu forcément éviter à Jérémie, au prophète, le rejet, et à Paul, les naufrages en mer. Il ne l'a pas fait. Ça, écoutez, mes amis, ça doit quand même finalement parfait. Il va falloir quand même un jour que ça fasse tilt, non? En fait, Dieu s'est servi de toutes ces épreuves pour amener ces personnes à être plus proches de lui, afin qu'elles produisent de la persévérance, forgent leur caractère et apprennent l'espérance. On apprend l'espérance que face au désespoir. Vous vous souvenez de Joseph? J'en ai parlé il y a 2 semaines. Oh oui, on se souvient, Yves. Nous en avons parlé il y a 2 semaines et le petit chouchou à son papa, envié de ses frères, vous vous rappelez, un rêveur qui rêvait que ses frères se prostreraient devant lui. En 2 coups de tuyau, il se retrouve esclave en Égypte, il a tout perdu au début du récit, sa maison, sa culture, sa sécurité, sa famille, son statut de fils préféré. Qu'est-ce qui lui reste? Humainement, rien. Il est étranger dans une maison étrangère, dans un pays étranger, il ne possède aucun avenir, aucun ami, aucune perspective et surtout aucune explication. Dieu lui a dit en son, tu deviens un grand homme. Et juste après, alors, paf, esclave en Égypte. Youpi, merci Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Ben non, il ne comprend rien Joseph. Il n'a plus aucun repère d'aucune sorte. En fait, il lui reste une chose. Et c'est le verset le plus important de toute l'histoire de Joseph. Genèse 39, verset 2. Le Seigneur était avec Joseph. Point. Dieu, c'est une catastrophe ce qui m'arrive. Je suis avec toi. Ça ne peut donc pas être une catastrophe, puisque je suis avec toi. Tu penses vraiment que ce qui t'arrive m'est inconnu, que je découvre ça en même temps que toi? Ça fait partie, sauf si vous faites vraiment les andouilles, hein, parenthèse. Mais si vous êtes modéré dans vos andouilleries, normalement, ça fait partie du plan de Dieu andouillerie. D'ailleurs, ça sera dans la prochaine citation, dimanche prochain. Il y aura andouillerie. Ça fait partie du plan de Dieu pour votre vie. Donc, Joseph n'est pas seul. Et le pire, en fait, pour un chrétien, c'est de se dire, quelles que soient ses circonstances, qu'il est seul. C'est le pire pour Dieu d'entendre ça. Tu m'as abandonné, sans blague. Oui, je t'ai. Oui. En fait, moi, j'ai donné mon fils sur une croix qui a souffert le martyr, le calvaire, la séparation, le gouffre éternel, l'enfer, tout ce qui va avec, pour te laisser tout seul. Mais bien entendu, c'était le but de toute cette histoire. Non, mais franchement, on s'entend penser quand on pense ça. Oh, que je suis fâché. Et je le fais bien, ça, le fâché. Hein. Donc, Joseph n'est pas seul. Parce que croyez-vous qui se passe quand un homme pense qu'il a tout perdu, et qu'il a tout perdu, en fait. Il ne fait pas que le penser, il a tout perdu. Eh bien, il découvre que seul Dieu suffit. Dieu, ça suffit. J'aurais espéré au moins un amen, même timide. Je n'aurais pas mon amen ce matin. Vous êtes tous désespérés. Donc, sans pouvoir, sans force, perdu dans un pays étranger, il a fait l'expérience de la présence de Dieu. Et des fleuves d'eau vive ont commencé à monter en lui parce que l'espoir naît de la promesse. Nous savons que toutes choses contribuent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Appelés selon son plan. Tu te rappelles tous ces petits versets un peu partout dans la Bible ? Oh le potier, tu vois, tu es Seigneur, je ne suis qu'un vase de terre. Brille. On chante ça dans certaines églises, pas ici, hein, c'est interdit. Mais dans certaines églises, brise-moi, Seigneur, façon. Mais vous êtes fou, quoi. C'est une prière, hein, brise-moi, façon de moi. Hein. Tu veux vraiment que je te brise? Il fera bien tout seul, hein, ne demandez surtout rien. Hein. Dieu n'était pas à l'œuvre, ça, il faut vraiment comprendre. En produisant les circonstances que Joseph désirait, Dieu était à l'œuvre dans de mauvaises circonstances en produisant le Joseph que Dieu désirait. Paul, vous rappelez, il était malade, Paul, on ne sait pas de quoi, mais c'est une maladie invalidante. Il était à l'arrêt pendant des semaines quand il avait une crise, on ne sait pas de quoi. Hein. Bon, on le sait parce qu'il le relate dans sa lettre aux Galates. Et il a demandé à Dieu, à quoi je sers quand je suis immobilisé comme ça? Donc, ce n'est même pas pour lui parce qu'il avait mal ou qu'il était... Non, non, non. Il dit, si je suis immobilisé, moi, je ne te sers à rien. Il faut que tu me guérisses pour que je puisse continuer à évangéliser. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Et c'est Paul qui le dit. Hein. Qu'est-ce qu'il lui a... Troisième fois qu'il lui a demandé, Paul a dit quoi? Ma grâce te suffit, c'est dans ta faiblesse que ma puissance se révèle. Paf ! Je vais te laisser ton truc, parce que tu es plus fort comme ça. Dis pas ça à un chrétien d'un jour, hein, mes amis, on est bien d'accord. Hein. Il m'aurait dit ça au début. Est-ce que je peux mettre ma signature pour défaire le contrat que j'ai signé avec toi ? C'est possible, parce que... Un des versets bibliques les plus mal interprétés, Il y en a quelques-uns, vous savez, mais celui-là, ça, c'est le pompon. Quoi. C'est un des versets sur lesquels, quand jeune chrétien, peut-être que certains se rappellent, j'ai entendu, le nombre de messages que j'ai entendu là-dessus, c'est apocalyptique. Hein. Comme quoi, un verset, ça peut vraiment faire du dégât. Hein. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, beaucoup prêchent là-dessus, enseignent que, avec Dieu, rien d'inaccessible ne vous sera imposé. Autrement dit, vous n'allez jamais connaître une circonstance dans votre vie que vous ne prendrez pas avec une certaine allégresse en disant, oh, ça, je peux assumer, quoi. Il n'y a pas de problème. Ça parle de tentation, hein. Ça ne parle pas d'épreuve, hein. Ça ne parle pas de catastrophe. Allez enseigner ça à des gens qui ont été à Auschwitz, croyez franchement que les Juifs qui se sont retrouvés se sont dit, ouais, ça, je peux gérer, moi. Oh, bon. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Un, on travaille jusqu'à mourir ou un gazé. Je peux gérer ça. Donc, il faut faire attention quand on enseigne les choses. Hein. Mes amis, tous les jours, des gens, des hommes et des femmes, rencontrent des circonstances au-delà de leurs forces. Tout le temps, les chrétiens avec. La parole de Dieu n'affirme jamais, nulle part, que nous ne connaîtrons que des circonstances que nous sommes capables de gérer. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il y a une seule certitude, je parlais d'avenir et d'espérance, une seule certitude que nous avons tous ici dans la pièce, c'est laquelle ? Là, vous allez me dire, parce que vous êtes de bons chrétiens, Jésus va venir. Le pragmatique d'aujourd'hui, effectivement, la seule certitude, we're all gonna die, on va tous mourir. Certains dans l'allégresse, je fais de l'autre côté, d'autres, on entend un peu les épaules, quoi, dans la tristesse. On va tous mourir. Franchement, c'est quelque chose que les gens gèrent facilement. Vous. Hein? Franchement. C'est toujours Paul qui dit ça, hein? Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ce que Jésus a réalisé en mourant à la croix, mais il faut l'intégrer, hein, c'est qu'il a, entre autres, hein, tué la peur qui exerçait la mort sur les hommes. Il l'a tué en lui-même. Il l'a tué, la mort. Il l'a tué. Pourquoi ? Je vais partager ça mardi, je pense. C'est un verset, voilà. Jésus a dit ça aux pharisiens qui l'attaquaient encore une fois. Il a dit, parce que oui, tu te prends pour qui, etc. Il leur a répondu en parlant des... Celui qui garde mes commandements, écoutez bien, celui qui garde mes commandements ne verra jamais la mort et ne goûtera jamais à la mort. Et beaucoup de chrétiens connaissent ce verset. Ça veut dire quoi ? Rien. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Pourquoi vous ne devez pas avoir peur de la mort si vous êtes en Christ ? Parce que la communion éternelle que vous avez, que vous entretenez avec Dieu, par l'intermédiaire de la présence de son esprit, il n'y aura pas une milliseconde de coupure. Hein. Tous les enterrements, vous savez ce qu'on veut faire ? Là, machin, là, il est vivant. Son corps est mort, mais lui est vivant. Donc c'est un sujet que beaucoup de chrétiens, et même d'hommes forcément et de femmes de cette planète, ont du mal à gérer, c'est la mort. Par contre, et ça, si vous voulez retenir un truc de ce que j'ai dit aujourd'hui, ça, il vous faut vraiment le retenir, parce que c'est vraiment important, et c'est ça l'important. Vous ne serez des situations mais qui vous dépassent, que vous vous demandez, mais comment je vais faire pour vivre ça, ça arrive. Mais l'important, c'est de savoir que vous ne serez jamais dans une situation à laquelle Dieu ne peut pas faire face. Vous ne savez pas faire face, amen. Hein. Ben oui, ça, forcément, vous ne pouvez pas. Mais il n'arrivera jamais dans votre vie une seule circonstance où Dieu ne pourra pas faire face à cette situation. Je pense qu'on minimise l'impact du fait que le Christ est en nous. Hein. Parce que quand on pousse le raisonnement jusqu'au bout, qui fait face à la situation ? Si je suis vraiment en Christ et je lui fais confiance, c'est le Christ qui fait face à la situation, ce n'est pas vous. Hein. Ce n'est plus vous. Hein. C'est le Christ qui fait face à cette situation. Rien, même pas la mort, ne vous placera au-delà de l'Esprit de Dieu ou au-delà de son atteinte. Rien, même pas la mort. Alors aujourd'hui, vous, je ne sais pas, hein, peut-être dans une situation que vous n'avez pas désirée, une situation qui vous donne parfois l'envie de vous coucher par terre et de mourir, ça peut arriver, ça peut être arrivé, ça va peut-être vous arriver. Mais quand vous tenez bon en lui, quand vous offrez le meilleur de vous-même, quelque chose de bon se passe en vous. Quelque chose qui surpasse, quoi qu'il arrive, ce qui se passe autour de vous. Il y a un processus qui s'allume. Alors je ne dis pas qu'on comprend le processus, mais ce processus s'allume. Prenons un texte. Je suis un peu long aujourd'hui, je suis désolé. Oui, mais je n'ai pas fini. Voilà ce que dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Au pied de la lettre, moi, je n'ai toujours pas vu de montagne à un endroit où elle ne devait pas se trouver, mais bon. Ça, à mon avis, ça manifeste surtout qu'on comprend souvent pas très bien ce verset. Le contexte est intéressant. Il enseigne ça à ses disciples, mais Jésus, à ce moment-là, il fait face à une grande adversité dans sa vie lorsqu'il prononce ses paroles. Il peut le dire parce que lui vit ça. En fait, ils veulent tous le tuer. Donc, anecdotique. Hein. Chaque fois qu'il dit une phrase, tout le monde lui court derrière pour l'arrêter et le mettre à mort. C'est sympa hein, comme contexte de travail, je trouve. Chaque fois que vous l'ouvrez, vous savez qu'ils veulent vous couper votre tête. C'est vraiment comique, je trouve. Mais qu'est-ce qu'il dit, en fait ? Eh bien, que lorsque je suis concentré sur la montagne, quand je ne vois que la montagne, je ne vois que la souffrance, que l'épreuve, je suis conduit par la peur. Mais dans les mêmes circonstances, lorsque mon attention se déplace et se porte sur Dieu, quoi qu'il arrive, je suis rendu vivant par ma foi. Cette montagne, elle est toujours bien réelle, hein, mais elle ne me détruit plus. Elle n'obscurcit plus rien. Je ne la nie pas, elle est là. Mais elle ne dicte pas ce que je fais, elle dicte encore beaucoup moins ce que je suis. Mais par contre, si je n'ai pas de montagne sur ma route, je pourrais très bien ne jamais savoir vraiment comment ma foi fonctionne et si elle existe bel et bien. Avoir la foi, quand tout va bien, humainement parlant, vous êtes bien dans votre couple, votre femme fait bien la cuisine. C'est très spirituel tout ça. Hein. Les enfants sont adorables. C'est normal, vous les piquez dans des seringues toujours pour qu'ils se taisent. Donc ça s'appelle des anxiolytiques. Hein. Vous savez que les gosses aujourd'hui, difficiles, ça s'appelait plus des gosses difficiles, ça s'appelle des enfants hyperkinétiques. Avant, on leur faisait jouer au foot et quand ils rentraient crottés, tu vas te laver, tu te calmes parce que tu me prends la tête et je ne veux plus t'entendre aujourd'hui.
Oui, papa.
Mon Dieu, ah non, c'est dépressif, mon fils est ingérable. C'est intéressant, hein. Donc, si je n'ai pas de circonstances négatives, si je n'ai pas de montagne, à quoi ma foi ça ? À quoi ma foi ? Où est-ce que je vais endurcir, approfondir, cultiver la réalité de ma foi ? Ça me fait penser à cette expression très jolie, mais terrible, que le pasteur Greg Groeschel emploie dans un de ses livres, quand il parle des chrétiens athées. Et il se met dedans. Hein. Chrétiens athées. C'est un paradoxe, hein, ça, quand même. Chrétien, athée. La définition est simple. C'est croire en Dieu et vivre comme s'il n'existait pas. Bienvenue dans l'Église du XXIe siècle. Donc, vos circonstances, même les meilleures, sont temporaires. Les mauvaises sont temporaires et les meilleures sont temporaires. Même les meilleures. Hein. Par contre, vous, la personne que vous devenez à travers tout ça, elle va demeurer éternellement. Hein. Donc, rappelez-vous, Apocalypse, on va recevoir un nouveau nom au ciel. Dieu, il aime bien changer, donner des nouveaux noms, parce qu'il donne des nouveaux noms qui concentrent la réalité de l'être en qui il s'adresse. C'est génial, hein ? Jésus, Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Ça correspond assez bien à la vie de Jésus, non ? C'est génial, hein ? Donc moi, j'ai toujours fait attention que pendant toute l'éternité, on vous appelle pas Dubrol, ça sert à rien. Pauvre type. Et ce nom vous sera donné par rapport à la façon dont vous aurez vécu votre foi ici. Hein. C'est pareil pour moi. Hein. Moi, j'ai un peu une petite idée de mon nom. J'en ferai aussi, apparemment. Grande gueule, viens ici. Ah, soit. Voilà ce que dit Thomas Merton, un moine trappiste, brave homme, américain, surtout un prodigieux intellectuel aussi, mort trop jeune, trop tôt. Dans un accident de voiture et tous ses frères autour, toutes les universités d'Amérique ont dit mais pourquoi il est mort s'il était tellement, enfin voilà. Et voilà, il est près de son Seigneur maintenant, tant mieux pour lui. Tant que nous sommes sur terre, l'amour qui nous unit nous fera souffrir à chaque contact avec nos frères parce qu'il est le fruit de la réflexion d'un corps aux os brisés. Ce corps étant, c'est majuscule, le corps de Christ. Si vous rentrez dans l'amour, si vous décidez d'aimer comme le Christ vous le demande, ne fût-ce qu'au niveau de vos frères et sœurs dans l'Église. Ben, vous allez souffrir. Hein. Dès que vous décidez d'aimer, vous souffrez, mes amis. Hein. Faites des enfants. On n'y pense pas, on n'en ferait pas. Vous allez souffrir. Hein. Toute votre vie, ben, on vous ment. Hein. On vous ment quand on dit « Ouais, 20, 22 ans, c'est bon. » Ce n'est pas vrai. Jusqu'à la mort, il vous souhaite. La souffrance peut adoucir un cœur et approfondir l'amour d'une façon unique. J'ai eu le privilège, quelques années, d'accompagner pendant ces derniers jours, même ces dernières semaines, un ami chrétien. Je passerai les détails. Mais j'ai surtout pu observer que quand quelqu'un part de cette terre avec son Seigneur à côté de lui, il y a des choses merveilleuses qui se passent au niveau. Il est en rupture de relation familiale avec ses deux fils depuis des années. Ils sont venus, forcément, le papa allait mourir. Ils sont venus, ils se sont réconciliés. Ce n'était pas du flan, j'y étais. Hein. C'était magnifique. C'était absolument magnifique. Dieu vient à nous dans nos tempêtes et nos chagrins. Et il les partage surtout, parce que Dieu est amour. Alors si vous pensez que vous souffrez, pensez à la souffrance de Dieu. Si vous souffrez quand vos enfants, par exemple, ont des problèmes, pensez à sa souffrance à lui. C'est exposant un mire, on ne peut même pas imaginer. Et dans ce chagrin, c'est ce que dit Merton, partagez avec d'autres, parce que les autres sont là pour ça aussi. Hein. Quand on partage, on apprend à partager nos moments difficiles avec les autres, ben nous trouvons l'amour, en fait, le fait que nous savons que nous sommes aimés, véritablement aimés. La paix au milieu de la tempête. Pleurez avec ceux qui pleurent, dit l'apôtre Paul. En fait, ce que nous avons du mal à accepter, c'est que l'amour véritable se rencontre souvent dans un chagrin partagé et dans les relations avec des âmes brisées. Mais aimer quelqu'un qui ne vous pose aucun problème, qui est toujours d'accord avec vous, qui n'apporte que du bonheur dans votre vie. Il y a des amis comme ça, le monde de famille peut-être, je ne sais pas, ça, je ne peux pas vous dire. Mais des amis sans doute. Hein. Et c'est bien, c'est de l'amour, hein. Mais quand les tuiles tombent vraiment ou que ça va vraiment mal, c'est là que vous allez les compter. Hein. C'est pour ça que le terme frère et sœur dans l'Église, c'est biblique, donc on l'emploie. Mais souvent, c'est rare que vous appelez mes frères et sœurs. Hein. Et Jésus, il a dit à ses frères, disciples, vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. Hein. C'est tellement facile, les galvaudés de nos jours. Hein. Tu es mon frère et ma sœur. Dès que tu as un problème, on te coupe ta tête. Donc, frère et sœur, ce sont des termes qui sont bibliques et tout à fait réels quant à relater les relations profondes qui doivent nous unir dans l'Église, nous et des autres. Hein. Mais il faut que ces choses se développent. Hein. Sinon, c'est du cirque. Hein. Parce qu'une des, et ça je pense que c'est un des plus beaux fruits des périodes difficiles, c'est qu'un des résultats les plus courants pour les personnes passant par des temps difficiles, c'est qu'elles deviennent plus sensibles aux autres, elles arrêtent d'être égocentriques. Par exemple, on a constaté que les personnes à qui on diagnostique une maladie sérieuse illustrent bien ce paradoxe. Hein. Elles détestent se savoir affaiblies dans leur corps, mais elles s'éveillent au fait que les gens sont importants. Elles ne passent plus leur temps et ne gaspillent plus leurs émotions à des choses secondaires ou sans importance. Elles focalisent sur l'essentiel. Dieu est présent dans nos difficultés. Et parce qu'il les partage, notre chagrin ou notre angoisse commence doucement à se matiner d'espoir. Parfois, on va en mourir, hein, des choses graves. Parfois, on meurt. Mais comme l'a vécu mon ami, entre mourir seul, même chrétien, en s'attachant au rideau, ou mourir la main dans celle du Christ, c'est une solide différence. Hein. Mais il n'est pas arrivé comme ça, tout seul. Hein. Il a fallu l'accompagner et qu'il se remette en question. Et pourtant, on aurait pu dire, mon Dieu, il va mourir dans 2 semaines, il y a un cancer, c'est fini, quoi. Hein. Il a 42 kilos et c'est bon. Non. Il y a encore du boulot à faire. Ses fils ne sont pas là. Ils doivent être là. Il faut réconcilier cette famille. Et puis, c'est tout. Et il doit accepter qu'il s'en va. Mais que même dans sa mort, son Seigneur est là. Pourquoi il aurait été présent dans sa vie et pas dans sa mort? Allez. Dernier point. J'arrive à la fin. L'adversité peut changer nos priorités. Je ne sais pas si vous avez lu le livre, je ne suis même pas sûr qu'il est traduit en français. Leçon de Saint-Quentin. Saint-Quentin, c'est une prison assez célèbre aux États-Unis. C'est un pays qui est célèbre pour ses prisons. Cherchez l'erreur. C'est un livre qui a été écrit par Bill Dallas. Ça ne s'invente pas non plus comme nom, ça. BD. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Saint-Quentin est donc une prison. Et dans ce livre, l'auteur évoque le fait que la pire des souffrances de sa vie a été aussi le tournant de celle-ci. C'était un homme d'affaires à qui tout réussissait. Il gagnait donc beaucoup d'argent. Il avait tout ce qu'un homme peut désirer, jusqu'au jour où quelques placements douteux l'ont amené en prison. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. En prison, Bill a rencontré Dieu. Donc, pour le dire autrement, il ne serait pas entré en prison. Il est fort probable que, vu son train de vie et vu sa façon de vivre, il n'aurait jamais rencontré Dieu. Dans cette prison, il a rencontré des hommes condamnés à perpétuité qui possédaient un plus grand sens de la paix et une expérience plus profonde de la communauté que ceux qu'il avait pu croiser dans les suites 5 étoiles des hôtels qu'il fréquentait avant d'entrer en prison. Il a rencontré des gens plus profonds et plus en paix en prison qu'à l'extérieur. Un jour à la fois, ces hommes devenaient la nouvelle version d'eux-mêmes, alors qu'ils n'avaient aucune possibilité un jour de sortir de prison. Quand vous prenez perpète aux États-Unis, vous êtes condamné à 8542 années de prison. Et les peines sont cumulables. Ici, on prend le délit le plus gros et on met la peine. En Amérique, vous faites 5 braquages, on vous arrête, vous allez prendre la peine pour les 5 et on additionne. Hein. Des gens qui n'avaient aucune espérance, de sortir un jour de prison. Et les prisons américaines, ce n'est pas les plus terribles au monde. Hein. Tout comme Joseph, Bill Dallas a fait l'expérience que Dieu était avec lui en prison. Alors aujourd'hui qu'il est libre, parce qu'il est sorti, il dit que si on lui proposait de visiter un dernier endroit avant de mourir, ce ne serait pas la Tour Eiffel, ni la Grande Muraille de Chine ou le Taj Mahal, ce serait cette cellule où il a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu dans une cellule. C'est comme si la vie normale était un manège et que nous courions après l'argent, le succès, la sécurité, l'amour, jusqu'à ce que l'adversité nous en fasse descendre du manège. La souffrance nous permet alors de diagnostiquer la folie, parce que c'en est une, hein, que représente le fait de courir derrière des idoles matérielles, quelles qu'elles soient. Et lorsque des personnes ont souffert, elles refusent souvent de retourner à leur ancienne vie, une fois que la normalité a repris ses droits. Elle refuse de retomber dans ce panneau-là. Il faut néanmoins prendre conscience d'une chose. Nous n'avons qu'une petite fenêtre de temps pour décider de vivre autre chose, autrement. La vie humaine, ça va tellement vite, mes amis. Si nous ne le faisons pas, nous retournerons à notre ancien mode de vie, parce que même s'il est vide de sens, ce mode de vie, inutile et sans aucune expérience, de croissance réelle, il est ce qui nous sécurise, ce que nous avons appris à connaître et à aimer. De nombreux kinés travaillant sur des patients en revalidation, après un accident de voiture et autres, ont constaté ça. Au moment où quelqu'un perd, par exemple, après un accident, l'usage de ses jambes, c'est une dépression terrible. Je ne marcherai plus. Et puis on travaille. Et puis parfois, on commence à remuer un petit peu. Et puis à un moment, les kinés viennent voir le gars sur son lit d'hôpital et dit « Voilà, maintenant il va falloir attaquer la rééducation. Tu vas devoir te lever sur deux jambes. » Vous savez ce qui se passe, hein ? La plupart des gens ne veulent pas se lever de leur lit. Fini le désespoir d'avoir perdu leurs jambes. Ils se sont habitués à leur lit. Mais c'est comme ça que ça marche. Hein ? Et puis après les béquilles, allez, ça vient. Puis on me dit « Maintenant il va falloir laisser tomber les béquilles parce qu'il y a moyen que tu marches sans béquilles. » Non, non, laissez-moi mes béquilles. Hein. Nous sommes comme ça. Notre Bill Dallas, là, en question, quand il est sorti de prison, ça n'étonnera personne, il a changé de travail, il a changé de style de vie, il a changé d'amis, d'habitude, et surtout, il a changé de Dieu. Il a laissé son Dieu argent de côté. Une fois sorti de prison, sa vie s'est normalisée, mais ses valeurs et sa trajectoire avaient été profondément transformées. Mais si je reviens à mon exemple du départ avec nos enfants, si la maman de Bill Dallas a vu un effaceur, il va aller en prison. Tu effaces ou pas, elle aurait effacé. Et il n'aurait pas rencontré Dieu. Søren Kierkegaard, c'est un de mes chouchous, hein, philosophe danois, c'est ma mémoire bonne, a dit « L'affliction est capable de noyer n'importe quelle voie terrestre. Mais la voie de l'éternité, donc celle de Dieu pour le dire autrement, profondément enfouie dans notre âme, elle ne peut pas la noyer. Notre âme n'est pas appelée à être noyée par le désespoir, mes amis, jamais. Parce que nous avons la vie éternelle en nous. Alors, comme chaque invitation du Saint-Esprit, nous aurons besoin de donner une réponse. Nous devrons faire notre part, bien entendu. Si vous contentez de dire « je vais me souvenir de cette nouvelle perspective que j'ai apprise », une fois que votre vie reviendra à la normale, vous retournerez sur votre petit manège et vous recommencez à retourner en rond. Mais si courageusement vous changez des choses dans votre vie, Si peut-être pour la première fois vous décidez de faire passer Dieu, de le mettre à la place qu'il mérite, qu'il est le seul à mériter, les choses peuvent vraiment changer. En fin de compte, si l'adversité peut produire de l'espoir, c'est parce qu'il existe une réalité bien plus grande que vous et bien plus grande que moi. Et cette réalité, c'est que Dieu est un Dieu rédempteur. C'est un Dieu qui sauve. C'est sa nature profonde. La question que nous nous posons peut-être est celle-ci. Ne sommes-nous pas en pleine utopie? Tout cela est-il praticable, être en paix dans les catastrophes? Alors on serait tenté, surtout si on ne le vit pas encore, de répondre « c'est pas praticable, c'est impossible, quoi. C'est du flan ». Il y a plein de chrétiens qui pensent, hein, quand ils voient la distance entre les promesses de Dieu et leur vie. L'écart est tellement grand que c'est forcément du flan. Ils n'osent pas le dire. Hein. S'ils le disaient, vous rendez compte, oh, mon Dieu, un faux chrétien, un loup parmi nous. C'est vrai que donner son manteau à celui qui nous le demande, et pas seulement le manteau, mais même les fringues que vous avez en dessous, et donc le résultat, c'est que vous êtes tout nu. Quand on lit ça dans l'Évangile, quand on entend Jésus nous dire ça, on dit ce mec est complètement cinglé, quoi. Et vous ne le feriez pas. Hein. Donnez votre manteau et tout ce que vous avez. Tendre la joue gauche alors qu'on vient vous en coller une sur la droite, on le lit, on se dit « Ah Seigneur, oui, apprends-moi, mais on s'en souvient, je viens de vous le dire le verset. » Mais dans la réalité, on se dit « Jésus, s'arracher l'œil, c'est un euphémisme, mais s'arracher l'œil ou se couper la main, autrement dit, se priver du nécessaire pour celui qui demande le superflu, c'est ne plus s'appauvrir, hein, c'est se laisser dévorer vivant, ce n'est pas un chemin, Seigneur. Tu ne peux pas exiger ça de moi. » Alors que faire, mes amis? Est-ce que nous allons édulcorer ces préceptes, prendre nous-mêmes l'initiative de les revoir à la baisse, tout en nous prétendant être des disciples de Jésus? Moi, je pense que la réponse est claire. Hein. On ne peut pas faire ça. Parce que la première condition et la première conséquence, pardon, que nous subissons, nous, quand nous décidons de ne pas prendre Jésus au sérieux, c'est que notre vie ressemble à tout ce que vous voulez. Hein. Ma vie ressemble à tout ce que je veux, mais pas à celle pour laquelle le Christ a donné sa vie. Car dans l'absolu, on ne peut pas traiter à la fois Jésus de rêveur et se dire chrétien dans la même phrase. Car ce serait déjà indigne de moi d'être le disciple d'un rêveur. D'ailleurs, tout le contexte de la vie et de l'enseignement de Jésus manifeste à l'évidence qu'il est tout le contraire d'un rêveur. La croix, ça manifeste un truc, c'est une chose que la croix doit vraiment symboliser pour nous, c'est que Jésus sait tout, mais sauf... Parce qu'un rêveur, il ne va pas jusque-là. Il devait être méchamment convaincu de ce qu'il faisait. Jésus sait très bien ce qu'il dit. Et il sait très bien que nous aurons du mal à comprendre que nous sommes responsables de notre liberté, cette liberté que lui nous a acquise, de dire « Oui Seigneur, je veux te suivre ». Je termine vraiment. Notre Seigneur nous dit ce dont l'homme est capable dans la vie la plus simple, à condition qu'il soit bien le fils d'un Dieu qui est Père. Si ce n'est pas un Dieu Père, il y a d'autres religions sur la planète, hein. Si c'est Allah, Bouddha, enfin, maintenant c'est Bouddha, c'est une philosophie au départ, maintenant c'est une religion, hein, comme les autres. Hein. Peu importe la religion. Alors, si ce n'est pas un Dieu Père, donc si ce n'est pas un Dieu qui m'aime. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, hein, pour les musulmans. Hein. Mais je ne plaisante pas. Hein. Parce que pour beaucoup d'entre eux, une telle dévotion extérieure, souvent, hein, mais enfin dans la pratique, pour un Dieu qui ne les aime pas, un Dieu qui va les juger par rapport à leurs bonnes et leurs mauvaises actions, qu'ils comptabilisent sur une sorte de petit carnet, si on peut dire ça comme ça. Moi, je suis admiratif. Moi, je ne pourrais pas être en relation avec un Dieu pareil. Ce qu'il faut offrir à Dieu, c'est la construction jour après jour. En fait, il ne demande rien d'autre. C'est la construction jour après jour de notre liberté pour qu'elle soit vraiment, non pas la liberté des esclaves que nous étions et que nous ne sommes plus aujourd'hui, mais la liberté des fils qui aiment et qui servent leur père. Et je termine par deux versets qui vont, je pense, bien clôturer ce que je voulais vous dire ce matin. En fait, deux versets et demi, je triche. Qu'on trouve, toujours sous la plume de Paul, dans l'épître de Paul à l'église de Philippe, en Grèce. Il est en prison. Il attend probablement sa condamnation à mort, parce que vu ce qu'il a vu, les charges, à l'époque, ça rigolait pas. Voilà ce qu'il dit. J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, à savoir le Christ. Je suis à l'extérieur en train de prêcher l'évangile. Sois béni, Seigneur. Je suis en prison, à quelques semaines sans doute, de me voir condamné à mort. Sois béni, Seigneur. J'ai à manger tous les jours. Sois béni. Je n'ai rien à manger, c'était son cas. Sois béni. Je passe une journée sans être fouetté, bâtonné, lapidé, parce qu'il l'a été plusieurs fois. Je ne suis pas, sois béni, Seigneur. Je le suis, sois béni. Et je vous passe les églises qui remettaient son ministère en compte. Des emmerdements tout le temps. Tout le temps. Mais tout le temps. Hein. Et voilà ce qu'il écrit. Moi, je ne pourrais pas l'écrire, hein, sans mentir. Lui, il est dans la parole de Dieu. Hein. Ce n'est pas pour rien que ces textes sont dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas à l'œuvre produisant les circonstances que nous voulons. Il faut vraiment se rappeler ça. Dieu est à l'œuvre dans les mauvaises circonstances, produisant la nouvelle version de vous-même. Ça devrait nous aider, je pense, à aller vivre différemment. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et surtout qu'il vous bénisse. Mais c'est ce qu'il veut faire. Ça, j'en suis convaincu. Amen.